Ça va? Oui. On va prier d'abord et on va partager la parole. Notre Dieu et notre Père, c'est d'une façon humble que nous prions que tu bénisses ta parole, que tu bénisses ce que nous allons écouter et partager, que ce soit ton esprit qui touche notre corps, qui transforme notre vie, et qui touche le corps des personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore, Seigneur. Nous prions ça au nom de Jésus. Amen. C'était la semaine passée que j'ai partagé avec Alex et Malo quelques mots à propos des nouvelles promesses de tennis. Alcaraz, c'est espagnol. Personnellement, je ne suis pas le tennis. En fait, j'ai presque jamais joué au tennis. Le dernier match que je me souviens, c'était avec un cousin d'Adam. Et c'est mon premier match avec lui et mon dernier match avec lui. Parce qu'on a passé plus de temps, on a allé chercher la balle qu'à jouer. Donc vous avez bien compris que mon niveau de tennis, ce n'est pas top. Donc si je vous dis par exemple que Sam a prouvé est une promesse du tennis, vous allez dire oui, ça ne veut pas dire grand-chose, vous, ton niveau. Toute personne ici dans cette salle peut jouer mieux que toi. Mais si Nadal vient ici et Djokovic ou Federer, il dit sans prouver, lui est le meilleur joueur de tennis de l'histoire, ça veut dire quelque chose. On prend ses paroles plus sérieusement. Voilà les rôles de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est la référence nécessaire pour prendre au sérieux ce qu'il allait devenir. C'était Jésus. Jean-Baptiste était à l'époque la référence morale, les chefs, l'autorité, les maîtres par excellence qui enseignaient le peuple. Il enseignait avec une telle autorité que toute personne venait l'écouter. Et même le peuple se demandait si lui était le Messie. Et il a dû dire, moi je ne suis pas le Messie. Mais beaucoup s'approchaient pour l'écouter, les gens du peuple, les collecteurs des impôts, les fonctionnaires, les soldats, et même Hérode lui-même, dans les passages parallèles qu'on n'a pas lus aujourd'hui, mais vous pouvez garder en tête Marc chapitre 6. Là-bas, on lit, on voit qu'Hérode l'écoutait avec plaisir, parfois, pas tout le temps. Imaginez-vous donc la réaction des gens de l'époque quand Jean-Baptiste a dit « Moi, je ne suis pas le Messie, mais celui qui viendra est plus puissant que moi. » Et je ne suis pas même digne de m'ébasser pour détacher la courroie de ses sandales. Voici la présentation de Jésus dans les évangiles. Jésus n'était pas un autre prophète, et Jésus était quelqu'un de plus supérieur qui appartient à notre catégorie. Et depuis le début de son ministère, Jésus, toute sa popularité grandissait, et c'est pendant la première moitié de tous les évangiles de Matthieu, c'est ce qu'on voit. La popularité, les gens, l'alimentation des 5000, plus de personnes et toute la foule qui les suivait. Et nous voyons comme sa popularité augmente. Et Jésus révèle de façon progressive qui était, c'est-à-dire Dieu fait homme. Mais ces révélations progressives de Jésus, en forme des paroles, en forme des actes, des œuvres, commencent à diviser les gens. Et c'est pendant la deuxième moitié de cet évangile de Matthieu où nous voyons cette opposition qui commence à diviser et grandir. Et cette opposition commence à être plus agressive chaque fois. Nous voyons dans cette deuxième moitié de Matthieu comme l'ombre de la croix s'approche et comme Matthieu prépare les lecteurs pour arriver au climax de l'évangile et au climax de toute l'histoire. Ce passage est doublement triste. Parce que d'un côté, nous sommes spectateurs d'un assassinat cruel, à sang froid, et en même temps, nous apprenons que cet assassinat avait déjà eu lieu avant. Et c'est un peu... ça laisse un goût amer. Et Matthieu fait un retour en arrière. Mais pourquoi nous trouvons ces passages ici? Il suit le moment où Jésus envoie, dans Matthieu 10, et par la suite, il envoie ses disciples et lui donne l'autorité pour chasser des démons, pour faire des miracles et pour partager l'évangile. Et même Jésus aussi fait une résurrection dans Luc 7. Et tout ça crée la réaction du peuple. Et le peuple commence à dire « un grand prophète a surgi parmi nous ». Et Dieu a visité le peuple. Et cette déclaration, dit l'évangile textuellement, s'est propagée pour toute la Judée et dans toute la région. Et c'est là qu'Hérode entend de parler de Jésus. Et c'est là le début de notre passage aujourd'hui. Et c'est là qui crée la crainte en Hérode. Et plus loin, nous avons aussi ce texte pour bien mieux connaître la personne d'Hérode, avec qui Jésus aura aussi une rencontre quelques temps plus tard. Grâce à ces passages, nous pouvons prendre conscience de la réalité, de l'opposition grandissante contre l'Évangile, mais en même temps considérer aussi la foi ferme des Jean Baptiste. Et c'est pour ça que j'ai mis comme titre à ce message « Une foi ferme face à une opposition grandissante ». Une foi ferme des Jean Baptiste face à une opposition grandissante. Et ça nous amène au premier point, la opposition des Hérodes et Hérodiades. Sachez que Hérode, ici, ce n'est pas une vraie version, s'appelle Hérode Tétrarque ou Hérode Antipas. Ce n'est pas le même Hérode, il y a plusieurs Hérodes, ne vous inquiétez pas si c'est un peu confus, mais ce n'était pas le même Hérode de la naissance de Jésus, ça c'était son père, Hérode le Grand, qui avait donné l'ordre de tuer tous les enfants. Mais non, ici, il s'agit d'Hérode Antipas, son fils. Il était un homme de caractère faible et impulsif. Il était marié initialement avec la fille d'Arrète, le roi d'Arabie. Mais lors d'un voyage à Rome, il a fait connaissance avec la femme de son frère. Son frère s'appelait Hérode Philippe. Et ses femmes s'appelaient Hérodiade. Et pour faire les choses un peu plus compliquées, Hérodiade était aussi sa nièce. Les deux ont décidé, à partir de ses voyages en Rome, de divorcer de leur conjoint et de vivre ensemble. Hérode a trouvé une femme plus jeune, et pas nécessairement par son expérience et sa maturité, si vous comprenez ce que je veux dire. Et Hérodiade, quant à elle, elle a trouvé un mari plus probablement avec plus de puissance, de pouvoir que son mari. Et dans le verset 4 de notre passage, nous voyons comme Jean-Baptiste dénonce ça. Jean-Baptiste lui disait qu'il n'était pas permis de l'avoir comme femme. Dans Luc chapitre 3, aussi, nous trouvons une référence à ça. Et je vais lire ça textuellement. Il dit « Cependant, Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches constants au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et aussi faisait des reproches de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajoutant encore à toutes les autres celles d'informer Jean en prison. » Hérode était un homme faible, était un homme superstitieux. Il croyait que Jean était ressuscité et ça l'a rempli de crainte. Il était un homme dominé par la mauvaise conscience. Nous ne savons pas, mais peut-être dominé aussi par la volonté de sa femme et surtout dominé par l'opinion publique. Nous voyons cette fluctuation des critères entre les versets 5 ici et le verset 9, par exemple, quand il dit qu'il voulait la faire mourir. Mais au verset 9, il dit qu'il était attristé quand il doit exécuter son serment. Marc chapitre 6, c'est une belle parallèle qui ajoute un peu plus de lumière et de détails à ces passages. Et le verset 20 de ce chapitre 6 dit « Furieuse contre Jean, c'était Hérodiade qui voulait faire mourir. » Mais elle ne pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint. Car Hérode, après avoir entendu, il était souvent perplexe et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Nous voyons cet changement tout le temps des critères, des relations entre Hérode et Jean. Hérode était un homme esclave, si on peut dire. Il avait peur de Jean, il avait peur de la réaction du peuple. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il ne tue pas directement Jean, mais il l'enferme dans la prison. Il enferme, selon les experts, pas loin de sa résidence habituelle à Macheron, dans une forteresse qu'il utilisait parfois. Et c'est là où il est allé, apparemment pour fêter son anniversaire. Là, précisément, où Jean était emprisonné. Il fête son anniversaire entouré des personnes, des personnalités, des chefs militaires, de toutes les personnes avec pouvoir de la région. Les côtés les plus obscurs et les plus cruels influencés qui faisaient l'influence à Hérode, c'était sa femme Hérodiade. C'est une femme sans scrupules, d'après ce qu'on voit ici dans le texte, et disposée à tout faire pour maintenir le pouvoir. Elle ne doute pas qu'on abandonne son mari. Elle est furieuse contre Jean à cause de son message. Et elle persiste jusqu'à exécuter un plan pour tuer. Même si ça impliquait, si vous avez compris ce qu'il y a derrière les textes, de dénigrer sa propre fille et de l'exploiter sa sensualité pour la faire danser en face des hommes dans un banquet. Et on peut comprendre que l'alcool était là et que l'alcool, le mélange entre l'alcool et la sensualité amène à Hérode à agir d'une façon tout à fait impulsive et irrationnelle. Et quand Hérode prononce son serment dans le verset 6 jusqu'à la moitié de « Je te donnerai de mon royaume », demande littéralement ici, il dit qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Dans le parallèle, on Marc 6, on lit « Jusqu'à la moitié de mon royaume, demande ce que tu veux ». La jeune fille suit les inscriptions cruelles de sa mère. Ce n'était pas que la jeune fille voulait tuer Jean, et on voit dans le parallèle aussi des marques, ces petits détails. La fille avait les instructions d'aller demander à sa mère si Hérode vraiment est vulnérable pour te donner un cadeau, va rencontrer moi et je vais te dire. Et ça, c'est ce que nous voyons dans Marc chapitre 6. La fille sort. Apparemment, les hommes et les femmes mangeaient dans des lieux différents. Et immédiatement, sa mère demande la tête de Jean-Baptiste. Et c'est ainsi qu'à la fin du texte, nous avons un sentiment d'impuissance, un sentiment de frustration. Et on peut se demander où était Dieu dans cette situation et pourquoi n'est-il pas agi pour l'éviter. Et dans cette série de prédications que nous allons démarrer, que nous démarrons aujourd'hui jusqu'au chapitre 17, on voit une opposition au message qui grandit, mais en même temps, la gloire de Jésus qui commence à briller avec plus d'intensité chaque fois. Nous verrons à la fin, au climax de l'évangile, que cette opposition qui grandit devient haine, et cette haine rencontre le climax maximum quand tout le peuple crie « Crucifie-le ». Vous voulez Barabbas ? Non, Jésus, crucifie-le. Ça, c'est le climax de cette opposition que nous voyons ici qui grandit. La présence de Jésus et son enseignement et ses offres puissantes créent une division plus grande chaque fois. Parce que le roi légitime, est venu ici pour prendre la place de l'usurpateur, c'est-à-dire les diables. Et ça, c'était quelque chose que Jésus avait déjà prévu quand il envoie dans Matthieu 10, un peu plus avant dans notre texte, il envoie ses disciples, il dit à la fin, vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus nous exhorte et nous dit que nous serons détestés, toujours à cause de son nom. Pas nécessairement à vie, pas nécessairement persécution à mort, mais toutes sortes de détestements, de rejets. Par exemple, combien de nous ici, nous pouvons, lors d'un repas familial à Noël, ou dans une rencontre où il y a les grands-parents, les belles-sœurs, les bons frères, toute la famille élargie, combien de nous pouvons à partager d'une façon transparente et ouverte les saluts en Jésus. L'opposition est réelle et l'opposition grandit. Mais et nous ne devons pas être naïfs à ces sujets. Et de plus en plus, il y a des sujets qui créent une réaction plus grande. Des sujets comme qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul moyen de s'approcher de ces dieux, Jésus, fait homme, concernant les mariages hommes-femmes, concernant la pratique homosexuelle ou toutes sortes d'immoralités sexuelles. Chaque fois, nous trouvons une opposition qui grandit. Et face à cette opposition grandissante et qui finit dans ce passage ici par la mort des gens, nous voyons aussi une foi ferme. Une foi ferme qui résiste. Et ça nous amène au deuxième point. Dans ce texte ici, Jean, si on veut, on peut considérer un agent passif. Il ne parle pas, il n'agit pas, mais je suis obligé à reprendre deux textes qu'ils ont en dehors de ces textes pour considérer quelques aspects importants de ces fois parmi sa vie. Une foi ferme qui résiste. Je vais faire référence à Luc 3 que j'ai mentionné et aussi à Matthieu 11, deux petits passages qui donnent un peu plus de lumière. Les meilleurs mots pour définir Jean, c'est les mots de Jésus. Et Jésus, dans Matthieu 11, il avait dit, « Je vous dis, en vérité, que parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'est venu personne plus grand que Jean-Baptiste. » Ces paroles de Jésus. Et nous voyons dans les ministères des gens une foi ferme qui résiste. Et je veux souligner aujourd'hui trois petits aspects de cette foi qui résiste. C'est une foi courageuse, c'est une foi qui écarte les doutes et c'est une foi victorieuse jusqu'à la fin. Pourquoi une foi courageuse? Parce que Jean prêchait et exhortait toute personne, sans exception. Des personnes ordinaires qu'il y avait dans le peuple, des militaires, des fonctionnaires, des dirigeants religieux. Jean ne voulait pas nécessairement absolument plaire les gens. Il voulait être fidèle à sa tâche. Quelle était sa tâche? Préparer le corps du peuple pour la venue du Messie. Il enseignait. Et il n'est pas accusé tout le temps. Il encourageait aussi, dit Luc 3. Il encourageait et il expliquait la parole. Il voulait amener les gens, les corps des gens et les préparer pour la venue du Messie. Il dénonçait les injustices et aussi il prêchait avec une urgence d'un jugement imminent. Laissez-moi lire quelques versets à partir de Luc 3, 10 pour voir un peu son ministère. La foule l'interrogea à Jean. Et il dit, « Que devons-nous faire ?» Il répondit que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs des impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Et lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Et aussi des soldats lui demandèrent, « Et nous, qu'est-ce que nous devons faire ?» Il répondit, « Ne commettez ni extorsion ni tort envers les personnes et contentez-vous de votre salaire. » La foi des gens était courageuse. Jusqu'au point ici, le verset 4, d'aller au même roi. Face à Hérode, quel courage d'aller dans le roi qui a le pouvoir dans ta vie, de te mettre en prison et lui dire, « Hérode, il n'était pas permis de prendre Hérodiade. » Pour ta, comme femme. On peut se mettre dans la tête d'Hérode et je te demande pardon. Tu vas me dire à moi qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que c'est bien ou mal. Et Jean, avec l'autorité de la parole, il dit il n'était pas permis, pas une fois. On voit dans la parole qu'il disait, pas seulement à cause d'Hérodien, mais de toutes les mauvaises actions qu'il avait faites. Quel courage. Jean était courageux. Il n'avait pas peur des conséquences. Était fidèle à sa tâche. Mais c'était seulement une foi courageuse pour partager, mais aussi une foi qui écarte les doutes. Et je suis obligé maintenant de faire référence ici à Matthieu 11. Notez que Jean prêchait en attendant le Messie. Jean avait identifié le Messie, comme on lit au début de l'évangile de Jean. Il dit, parole de Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, c'est lui que tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise de l'Esprit Saint. Et moi, je vous et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Mais quand il est en prison, on lit au Matthieu 11 que dans la prison, il écrit Matthieu, Jean avait entendu parler de ce qui faisait Christ, de la même façon que Hérode entend parler ici dans notre texte. Jean envoya deux de ses disciples à lui demander, est-ce-tu celui qui doit venir ou nous devons attendre un autre? Et Jésus lui répondit à ses disciples de Jean, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dans sa solitude, Jean commence à douter. Et nous pouvons imaginer quelques questions possibles ou quelques pensées possibles pour Jean dans la prison. Les choses ne se déroulent pas comme j'avais prévu. Lui, le Messie, j'avais entendu ses signes. Moi-même, je l'ai baptisé en suivant les instructions. Mais si lui, il est libérateur et les jugements doivent être là, qu'est-ce que je fais en prison? Pourquoi les choses ne sont plus vite que j'avais entendu? Et Dieu aussi en contrôle. Et le seul Messie doit venir un autre. Je suis confus. Je suis confus. Mais Jésus rassure Jean en montrant qu'il est vraiment le Messie. Il lui montre l'accomplissement de la prophétie en Ésaïe. On ne va pas les lire, mais il fait référence à ces prophéties-là. C'est une façon de dire, rassure-toi Jean, les choses vont arriver. Dieu va tout accomplir, moi je veux tout accomplir, mais pas nécessairement de la façon que tu attends. Pourquoi doutons-nous parfois? Parce que nous prenons probablement nos circonstances ou nos attentes plus sérieusement que la parole de Dieu. Alors notre situation, notre expérience font que nous commençons à douter. Mais qu'est-ce qui est le plus frappant ici? Que Jésus ne punit pas la doute. Au contraire, il donne des arguments fondés sur la parole et fondés sur ses œuvres et fondés sur les prophéties, sur l'accomplissement de ses prophéties, afin de renforcer la foi en Jean. Et c'est ainsi que la foi des gens écarte les doutes sur la base de Jésus et ce qu'il fait et ce qu'il fera. Et c'est précisément quand nous sommes enracinés dans ces paroles et persuadés que Jésus est le Messie et qu'il règne, alors nous pouvons résister à la tentation de comprendre ou de douter de Dieu selon notre situation particulière. Alors nous nous laissons guider par ce que Dieu dit de lui-même et de son règne, au lieu de nous laisser guider par rapport à notre expérience ou situation particulière, ou nos ressentis du moment. Rarement nous risquons d'avoir une crise spirituelle quand tout va bien, quand la santé est là, quand on a dans la banque l'argent nécessaire pour vivre, quand on a une maison, quand on a un travail. Mais quand nous vivons des situations vraiment difficiles, alors les doutes essaient de s'installer en nous. Alors il y a des oiseaux qui survolent notre tête et essaient d'implanter les doutes. Et cet oiseau, parfois, il dit « Est-ce que Dieu est vraiment bon? Prend-il plaisir à voir ma souffrance? Je continue à être important pour lui? S'il est bon, il est suffisamment puissant dans cette situation ?» Les doutes essayent de s'installer en nous et d'échanger la façon dont nous comprenons Dieu. Et les doutes, s'ils s'installent, cherchent ultimement détruire notre foi. Qu'est-ce que Jean a fait dans ces situations? Sans délai, il est allé, il a passé à l'action, il a envoyé ses disciples pour aller interroger Jésus. Es-tu? Je suis confus. Et nous avons parfois des doutes, mais ne laissons pas, ne laissez pas ces doutes s'installer en vous. Regardez la parole, regardez Jésus, regardez l'accomplissement des prophéties et ne regardez pas votre situation, votre ressenti, votre perception de ce qui vous entoure. Dieu est toujours le même. Avant de la fondation du monde, avec Abraham, Isaac, Jacob, qui on a parcouru il y a pas mal quelques mois, avec David, avec Daniel, avec Jean Baptiste, avec toi, avec moi, Dieu est toujours le même. Et Dieu ne rejette jamais. On n'a aucune situation où Jésus, Dieu, rejette quelqu'un qui, d'une façon humble, s'approche de lui avec des doutes pour renforcer sa foi. L'Esprit de Dieu nous enseigne toujours par la parole afin de rendre notre foi plus ferme. Mais la foi des gens qui tient ferme n'est pas seulement courageuse, n'écarte pas seulement les doutes, sinon que c'est une foi victorieuse qui tient jusqu'à la mort. Les lunettes de Dieu ne sont pas les lunettes du monde. Et les lunettes de Dieu ne sont pas nécessairement nos lunettes. Là où le monde voit un pauvre homme un peu lunatique et bizarre, Jésus voit les plus grands prophètes de toute l'histoire. Et là où le monde voit un puissant gouvernant à craindre, Hérode, Jésus voit un homme faible, soumis à la volonté des autres et qui vit dans la peur et qui est temporaire. Et là où le monde voit un terrible et pathétique fin avec la mort de Jean-Baptiste, Dieu voit une victoire par la foi en Christ. Et quand Matthieu écrit ce chapitre, il sait que nous, les lecteurs, nous savons déjà que Christ est ressuscité. Hérode craint que Jean soit ressuscité après l'avoir tué. Et ça, c'est le point ironique de ce texte ici. Vous voyez, la ressemblance entre Jean-Baptiste et Jésus. Et le même Hérode ici qui craint d'une façon superstitieuse que Jean est ressuscité avec plus de pouvoir et il craint sa présence. Ce même Hérode va rencontrer, il va voir que Jésus, le vrai plus puissant que Jean-Baptiste, sera ressuscité et il va vraiment régner. Et le pire de ses mauvais rêves va être réalité. C'est une sorte de bande annonce, si vous voulez, de la résurrection de Jésus que nous pouvons, et nous pouvons lire ces passages comme une victoire. C'est Jésus qui est vraiment ressuscité et c'est lui qui règne et pas Hérode. Hérode n'est plus là. Et c'est Jean qui est avec lui maintenant et c'est nous qui serons avec lui. Hérode a dû faire face à quelque chose de pire, beaucoup plus pire que rencontrer Jean-Baptiste ressuscité. Il a dû faire face à rencontrer Jésus ressuscité qui règne pour l'éternité. C'est une foi victorieuse. Et la semaine passée, Ben avait partagé avec nous un passage exceptionnel de la Écriture, Romains 8. Et c'est pertinent de rappeler aujourd'hui qui nous séparera de l'amour de Dieu. C'est la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, les dénouements, les dangers ou l'épée? Non. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Une foi ferme face à une opposition grandissante qui grandisse. Nous ne soyons pas naïfs, cette opposition va arriver, mais grâce à Dieu, grâce à Jésus qui est ressuscité et qui règne, nous allons tenir par la foi et nous allons rencontrer la victoire. Et là, Pierre, dans son premier épître, aussi, quelques années plus tard, il exhorte en disant « Soyez sobres, éveillés. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et à mot de conclusion, il y a des ressemblances, vous voyez, n'est-ce pas, entre la tâche de Jean-Baptiste et la nôtre. Jean-Baptiste préparait le peuple pour l'arrivée du Messie et prêchait la parole avec courage. Et nous aussi, nous devons, en suivant les mêmes paroles et les mêmes commandements que Jésus donne et nous donne à nous tous en Matthieu 28, maintenant que Jésus est ressuscité, maintenant, prêchez et faites des disciples par toutes les nations et baptisez-les et enseignez-le à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un message d'encouragement. Et peut-être que tu ne t'identifies pas en tant que fils de Dieu. Et peut-être que tu t'identifies avec Hérode. Pas parce que je ne dis pas que tu sois faible, impulsif ou quoi que ce soit, mais peut-être que tu sens que tu es entre deux influences. Par un côté, comme Hérode, tu entends parfois les paroles de Jésus, la Bible, et tu dis « oui, il est vrai ». Oui, j'écoute avec attention, mais tu te trouves aussi attiré par la haine et l'opposition du monde. N'attends pas vraiment à aller à Jésus. N'attends pas à le reconnaître d'une façon complète au lieu d'être attiré par deux côtés. N'attends pas. Hérode n'a plus de solution, mais tu es encore à attendre. Et pour nous qui nous pouvons dire Jésus est mon maître et j'attends son retour. Prenons courage. Prenons courage pour maintenir notre foi. Il est vraiment ressuscité et il règne. Et il viendra à nouveau pour prendre les siens avec lui. Et que l'Esprit nous aide à vivre vraiment cette foi qui est ferme, qui est courageuse, qui écarte tous les doutes et qui est victorieux jusqu'à la fin. Que Dieu nous aide.